Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour accueillir Jim Fergus. Nous sommes vraiment ravis de l'avoir avec nous ce soir pour nous parler de son tout dernier roman, donc Crisis, qui est sorti donc au Cherche Midi. Bonsoir Jim Fergus.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
Alors, resituer un petit peu vos romans, enfin Crisis, c'est quand même un peu à part dans votre œuvre, puisque enfin, en général vous faites beaucoup appel à des histoires vraies, c'est vrai, américaines, et qui aussi parlent de Cheyenne. Là vous changez complètement en parlant, donc ça se passe en France et dans le domaine de l'art. Est-ce que vous pouvez nous le résumer un petit peu pour les gens qui ne l'auraient pas lu, leur dire un petit peu de quoi il s'agit ici.
Oui, c'est vrai que c'est différent que mes précédents romans, mais après la sortie l'écriture de Marie Blanche, qui était un gros livre au sujet de ma famille française, est un peu dur, franchement. C'est pas très, très gay, et ça s'occupe de ma mère, qui avait des gros problèmes, avec l'alcool. Mais bon, donc j'avais envie d'écrire quelque chose, une histoire d'amour, court, et direct et simple, dans un langage très très simple, très direct. Et bon, c'était pour ça que j'ai écrit ce roman à cette époque. Mais il s'occupe d'un jeune artiste peintre dans les années 20, les années folles à Montparnasse. Et un vrai personnage, Crisis Jungbluth, elle s'appelait. Il n'était pas du tout connu en France comme artiste peintre, et beaucoup moins maintenant. Mais elle a bien exposé, en fait, tous les salons de Paris, le salon des indépendants, le salon d'automne, pendant des années. Et ce n'était pas facile pour une jeune femme artiste peintre d'avoir même une carrière en France à l'époque. Il y avait un seul atelier ouvert aux femmes à l'École des Beaux-Arts. C'était le professeur Jacques Ferdinand Humbert, qui était le premier professeur de Georges Braque, par exemple. Il a eu cet atelier pendant 30 ans. Et Crisis, elle a étudié avec lui entre l'âge de 18 ans jusqu'à 30 ans, quand il a pris sa retraite. Et elle avait 18 ans jusqu'à 42 ans avec lui, donc 4-5 ans avec lui. Mais bon, c'était... ce qui m'intéressait d'elle, j'ai trouvé à Nice un tableau chez un antiquaire qui était par terre, abîmé, et j'étais avec ma compagne à l'époque qui était malade, et on a trouvé ce tableau, elle était malade avec un cancer, on a trouvé ce tableau par terre dans cet antiquaire un peu brocanteur dans le vieux port de Nice, et c'était le tableau dans la vitrine. Il s'appelle Orgie, et en fait, c'est une scène d'orgie. Et j'étais fasciné par cette jeune artiste peintre, parce qu'il a dit son nom, Crisis Jungbluth, et le tableau, c'était vers 1925. En fait, j'ai trouvé que c'était fait en 1928, mais bon, et puis la date de naissance était 23 janvier 1907, et puis juste une tirée. Et le tableau était par terre, abîmé, un peu pas encadré, enfin, je l'ai acheté, après ça, je suis devenu de plus en plus intéressé de savoir qu'est-ce qui arrive après ce tiré. Et donc, Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'époque des années folles, une époque vraiment riche, et comme tout le monde sait en français, mais bon, c'était... Et puis, beaucoup de recherches sur la vie de cette jeune artiste peintre. Mais en fait, c'était une histoire d'amour. Tous les détails de sa vie à cette époque étaient... si vrai que je pouvais les faire. Et j'ai essayé de créer un milieu de Montparnasse réaliste, et j'essaie de la vérité de cette époque incroyable. Et puis j'ai mis mes personnages. Mais tout était, après ça, il a commencé d'un fait réel, la vie de cette jeune artiste peintre. Mais puis l'histoire que je raconte, comme j'ai dit, c'est une histoire d'amour, et c'est tout à fait inventé. Il y a un autre personnage, son amoureux, qui s'appelle Bogie Lambert. Il vient de Colorado, et lui, il était dans la Légion étrangère, et il est venu à Paris. Il était blessé, et puis il est venu à Paris, et il a rencontré Chrissy, et ils sont tombés amoureux, et bon, ça c'est un peu l'histoire.
Ce qui est assez incroyable, c'est de se dire qu'en fait, vous êtes complètement tombé par hasard sur ce tableau, et que voilà, si vous ne l'aviez pas découvert, ce livre n'aurait jamais existé, et que peut-être qu'on n'aurait jamais connu Crisis. Qu'est-ce que vous avez ressenti face à ce tableau, face à cette scène d'orgie?
Je ne sais pas, c'était ma compagne Marie qui a adoré ce tableau. C'est pour ça que je l'ai acheté, et je l'ai donné j'ai donné le tableau à elle pour son dernier cadeau de Noël, 7 mois avant sa mort. Elle avait une jeune fille, Isabella, qui avait 16 ans à l'époque, et ma belle-fille maintenant, elle va avoir dans quelques jours 22 ans maintenant, mais Marie, elle a adoré ce tableau, et elle m'a expliqué, quand je l'ai donné à elle, elle a dit: je veux absolument que Isabelle a ce tableau. Et j'ai dit: oh, je suis curieux, Marie, mais pourquoi une mère veut que sa fille de 16 ans ait un tableau qui s'appelle Orgie, qui est en fait une scène d'orgie? Et elle a répondu, sa réponse, j'ai trouvé vraiment touchant et vraiment belle. Elle a dit que, tu sais, toute ma vie, j'avais honte de mon propre corps. Et c'est vrai qu'elle s'est toujours cachée. Elle a dit que je veux pas que Isabelle soit comme moi à ce regard. Je veux qu'elle soit comme les femmes dans ce tableau, si libre et si contente dans le propre peau. Et c'est vrai que le tableau, il n'y a rien de pornographique de ce tableau. C'est juste des jeunes gens qui s'amusent. Et c'était ça que Marie, elle était aussi artiste peintre elle-même. Elle avoue dans ce tableau une certaine joie, une certaine liberté de ces gens. Donc c'était comme ça que j'ai donné le tableau à Isabella. Et après la mort de Marie, comme j'ai dit, je commençais d'être plus et plus intéressé sur la vie de cette jeune artiste. Et donc j'ai commencé mes recherches.
Alors oui, effectivement, après avoir lu le roman, j'ai moi-même essayé de trouver des informations sur Crisis, histoire de faire un petit peu la comparaison entre votre fiction et la réalité. Et j'ai trouvé très, très, très peu de choses, mis à part qu'elle est née à Boulogne-sur-Mer. Comment vous avez réussi à trouver ces informations sur cette jeune femme?
C'était pas facile, en fait. Moi, je crois que je suis maintenant l'expert dans la vie de Chrissie Jungbluth, dans la carrière de Chrissie Jungbluth, et aussi le plus grand collecteur du monde. Parce que maintenant, j'ai trouvé cinq tableaux, et j'essaie d'emprunter les tableaux pour l'expo, et j'ai trouvé deux en Californie, en fait, et les autres en France, petit à petit, mais personne n'avait envie de les prêter, et donc enfin je les ai achetés, mais ils sont toutes, c'est ça qui j'ai trouvé vraiment fascinant de cette jeune femme, parce que entre l'âge de 18 ans et vers 22-23 ans, elle a fait toute une série de tableaux un peu érotiques, dans les orgies, dans les bordels, dans les boîtes de nuit un peu de l'époque à Montparnasse. Elle s'intéressait, c'était clair à mon avis qu'elle était plus qu'une spectatrice de cette vie érotique à Montparnasse, elle était participante aussi. Et donc, j'avais envie d'explorer un peu cette partie de sa vie. Et je suis allé, j'ai commencé mes recherches à Boulogne-sur-Mer, où j'ai trouvé l'acte de naissance à la mairie là. Il y a une loi en France, on peut pas avoir. Je suis allé à Boulogne-sur-Mer, j'ai parlé beaucoup des historiens d'art à Paris, des galeristes, des gens, même les gens au Salon d'automne et Salon des indépendants, où elle exposait jusqu'à les années 40, et personne n'a rien su de ou qu'est-ce qui se passait avec cette jeune fille. Mais il y a une loi en France, on ne peut pas avoir les documents personnels des gens jusqu'à 100 ans après la date de naissance. Donc, il a devenu dans le domaine public en 2007, mais personne n'a demandé, sauf moi. Et après, petit à petit, j'ai trouvé les pistes de sa vie. J'ai trouvé l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès. Mais le roman, comme j'ai dit, ça s'occupe juste de ces années, entre 25, un peu plus que ça, parce que ça inclut aussi l'autre personnage, Bogey, pendant la guerre. Et puis, c'est juste le dessiné, en fait, des années 20, et un peu de Chrissie aussi comme jeune femme. Et elle est morte sur l'île de Martinique en 1979, à 82 ans. Je suis allé en Martinique et elle n'a pas jamais eu des enfants elle-même, mais son mari, qui était martiniquais, un roi de Martinique, il avait des relations, des neveux et comme ça, et j'ai trouvé beaucoup de photos d'elle de sa vie, et lui l'a connu comme jeune homme, et c'est comme ça que j'ai appris un peu ces pistes de sa vie.
Et est-ce que vous savez, en fait, ou est-ce que ça fait vraiment partie de la fiction, comment cette jeune femme que vous décrivez un petit peu, on a l'impression que c'est vraiment une tête brûlée, quoi, elle fonce, elle est très très vive, comment cette jeune femme arrive à se poser devant une toile sans la déchirer, enfin, comment elle en est venue à la peinture, tout simplement?
Ouais, c'était clair pour moi, après j'ai vu ces tableaux, et j'ai beaucoup, j'ai gardé chez moi le tableau d'Ogier, juste parce qu'Isabelle était toujours à l'université, et je l'ai gardé pour elle, mais j'ai regardé tous ces gens dans le tableau pendant des années, et j'ai commencé à imaginer les vies parce que j'étais sûr que tous ces gens étaient réels, étaient les vrais personnages, et en plus j'en suis sûr qu'il y a Chrissie elle-même est dans le tableau, mais c'était clair pour moi parce que j'ai trouvé des correspondances d'elle, elle était une femme, et les photos, même même quand elle était petite et jusqu'à pendant sa adolescence, et elle était quelqu'un de forte, quelqu'un de volontaire. On peut le voir dans son visage, dans ses photos. J'ai eu une expo de ses œuvres à Montparnasse à 7 mois. Ça ferme le samedi. Moi, j'ai amené tous les tableaux et toutes les photos. J'ai eu des agrandissements des photos. Et c'est une très belle expo, je trouve. J'étais sûr qu'elle était, comme j'ai dit, participant, pas juste spectatrice. Elle était quelqu'un, à l'époque, d'être connue et d'être comme artiste peinture, ou d'être même, de faire ses tableaux dans ce milieu, on ne peut pas être très timide. C'est comme ça que j'ai construit le personnage d'elle dans le roman.
C'est d'ailleurs ce qui est très beau en fait dans votre roman, c'est que comme le tableau Orgie, comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas une scène pornographique, il y a un rapport au corps effectivement très très présent. Et dans votre roman, c'est la même chose, c'est-à-dire que il y a des scènes de bordel, d'orgie, mais ce n'est jamais pornographique. Et c'est ça que je trouve très beau. Enfin, vous avez réussi presque à interpréter ce tableau tout au long de votre roman. Est-ce que c'était une sorte d'hommage justement pour votre compagne, comme vous le disiez au début, qui elle avait des problèmes justement avec son physique?
Oui, comme j'ai dit, j'ai pas eu envie d'écrire quelque chose un peu trop noir, et j'avais l'idée de ce tableau et des autres tableaux de Chrysis que c'était elle n'était pas quelqu'un quoi sombre, elle était quelqu'un de plein de joie, et c'est ça que j'ai essayé de capturer dans le roman, ces années de la jeunesse quand tout est possible et on est excité. Elle était amoureuse de l'art, ses tableaux de bogey, de l'éroticisme. Elle était juste quelqu'un comme ça. Elle était c'est ça que je voulais explorer dans le roman, et d'être et bien sûr comme histoire d'amour, c'est pas du tout noir, mais je peux pas raconter la fin du roman. Bon, mais comme toutes les histoires d'amour, les vraies histoires d'amour sont toujours heureux, mais dans la littérature, ils sont plus puissants quand il y a quelque chose d'autre de temps en temps.
Alors, est-ce que vous pouvez on ne parlera pas de la fin. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu, puisque Chrysis, bien entendu, c'est un pseudonyme, nous dire où est-ce qu'elle l'a trouvé et pourquoi elle s'est elle-même surnommée ainsi?
Oui, en fait, sa vraie nom était Gabrielle Rosalie Odile Jungbluth. Elle a pris le nom Chrysis d'un roman qui a sorti à Paris en 1896. C'était l'auteur Pierre Louis, français, et qui a écrit ce roman Aphrodite. Et le personnage principal dans le roman, c'était un roman érotique en fait, et le personnage principal était, elle s'appelait Chrysis, et elle était courtisan. Et j'ai trouvé fascinant, et c'était là où Chrysis a trouvé son nom, à l'âge de 18 ans. J'ai trouvé vraiment fascinant qu'elle a pris pour son nom professionnel. En fait, elle a gardé le nom pour toute sa vie, toute sa famille, sauf son père. Elle l'appelait Chrysis, et même jusqu'à la fin de sa vie, Gabrielle était Chrysis. Et j'ai trouvé ça fascinant qu'une jeune femme a pris ce nom d'une courtisan, d'un roman. À l'époque, c'était le plus. Il a vendu, Louis, 350 000 exemplaires de ce roman. À l'époque, c'était le plus grand succès d'un écrivain français jamais. Donc, tout le monde l'a connu pendant ces années.
Est-ce que vous-même, vous l'avez lu, Aphrodite?
Ah oui, c'est sûr, oui.
Vous le recommandez?
Oui, ça s'occupe de cette courtisan dans l'ancienne Alexandrie. Et c'est fascinant, c'est un roman, c'est aussi un roman un peu noir, en fait. Vous l'avez lu?
Pas en entier.
Mais... Oui, mais c'est un roman compliqué, pas tout à fait gay non plus, mais j'ai trouvé vraiment fascinant qu'elle a pris ce nom.
Et pour en revenir donc sur Crazy, sur votre roman, à votre avis, pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais rencontré la célébrité? Pourquoi elle n'a jamais vraiment percé? Enfin, pourquoi est-ce qu'elle est complètement tombée dans l'anonymat aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne la connaît pas encore?
Ah oui, mais je sais pas. Je peux pas dire. Elle a commencé d'avoir une vraie carrière en France. Et elle s'est mariée avec le Martiniquais en 1936. Et puis ils ont resté en France, à Paris. Son mari était étudiant de médecin à Paris. C'est là où il a rencontré dans une boîte de nuit, dans le Bal Nègre, en fait. Et il a adoré, il est un très bon danseur, lui. Et elle a adoré de danser, elle a adoré le jazz, toute la musique de l'époque. Et puis, ils sont mariés en 38. Ils ont resté en France parce que maintenant, il était un vrai médecin. Et il a soigné les soldats pendant la guerre. Donc, il a eu, comment dit-on, un pass. Il pouvait, des nazis, il pouvait venir et quitter le Paris pour soigner les soldats français. Donc, ils ont resté en France pendant la guerre et puis ils ont quitté la France en 1948 pour aller à Martinique. Et je commence qu'elle commençait à l'époque d'être un peu connue comme artiste peintre. Elle a, comme j'ai dit, bien exposé pendant ces années. Mais ce n'était pas facile pour... combien des artistes peintres françaises, des femmes, est-ce que tout le monde peut... dis-moi des noms. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Ce n'était pas facile pour les femmes à l'époque. Et c'est ça que j'explore un peu aussi dans le roman, parce que c'était vraiment difficile d'être connue. Et c'est largement à cause de ça, je trouve. Parce qu'elle était très... à mon avis, elle était très douée. Les autres tableaux, et surtout cette série de sa jeunesse qu'elle a fait dans les boîtes de nuit, les bougies, les bordels, je trouve vraiment intéressant. Et après l'âge de 22, 23 ans, elle a tout à fait changé ses thèmes, ses sujets, sa palette, son style, a tout à fait changé. C'était intéressant que juste... c'est ça qui m'intéressait. De cette petite partie de sa vie.
D'accord. Alors, il y a un deuxième personnage qu'on a évoqué tout à l'heure, donc il s'appelle Bogart. Je vous propose, avec votre permission, vous me l'avez donné tout à l'heure, de vous lire un petit passage où on le découvre.
C'est plus joli quand un français le lit, pas moi.
Il faudra m'excuser si jamais je bafouille, ou si... je m'en voudrais énormément. Ce jour-là, les tirs de mitrailleuse étaient tellement nourris par moments que nous n'osions pas sortir la tête de la
tranchée. Je peux juste dire que c'est le père de Crisis pendant la guerre qui raconte à Crisis dans ce scène de la guerre quand il a rencontré ce caractère Bogie. Mais elle avait juste 12 ans quand elle a appris cette histoire. Désolé.
Il n'y a pas de problème. ça mérite. Alors, je recommence. Ce jour-là, les tirs de mitrailleuse étaient tellement nourris par moments que nous n'osions pas sortir la tête de la tranchée. Tout à coup, pendant une accalmie, un de mes hommes s'écrie « Regardez, là, sur une crête à l'est !» C'est alors que nous vîmes un homme à cheval qui galopait dans les collines, se dirigeant vers nous. Les obus éclataient tout autour de lui et les balles faisaient jaillir la terre. Et pourtant, il poursuivait son chemin sans dommage. Ce n'était pas un cavalier ordinaire. Tout au moins, il ne ressemblait à aucun autre que nous ayons vu. Il montait un cheval gris clair, mais il ne semblait pas être un soldat allié puisqu'il ne portait pas l'uniforme de rigueur, et sa selle n'était pas un modèle militaire classique. Nous le regardâmes en silence et de plus en plus émerveillés, tandis qu'il approchait, car il évitait, on ne savait comment, les balles et les obus. Par la suite, lorsque nous eûmes l'occasion de confronter nos impressions, nous découvrîmes que nous avions tous eu la même sensation étrange, comme si nous étions déjà morts au combat et que nous nous trouvions transportés sur un autre fond, dans une contrée lointaine, à une époque différente. Le cavalier s'approcha encore et il apparut clairement qu'il n'était pas un soldat, tout au moins pas un soldat ordinaire. Donc ceci, c'est la première fois que nous... Enfin, pas la première fois, mais la première fois que le père de... que Crisis rencontre Bogart. Donc ce jeune homme est parti à la guerre. J'ai envie de demander pourquoi, puisqu'il est américain, il vit au Colorado. Pourquoi est-ce qu'il va s'engager dans la Légion étrangère en France ?
C'est comme tous les jeunes soldats, pour toutes les mauvaises raisons. Il est venu parce qu'il pensait que la guerre va être romantique. Il avait de sang français lui-même et de ses ancêtres, mais il ne parlait pas du tout français. Mais c'était sa mère qui a raconté. Et il a regardé les magazines et les journaux aux États-Unis qui parlent de la guerre, qui a les dessins avec les guerriers, les mauvais Allemagne et les Français, et les soldats. Et il l'a trouvé romantique. Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur la Légion étrangère aussi. Et il y avait pas mal des Américains avant que l'armée a entré la guerre en 1917. Il y a beaucoup pas mal des Américains qui sont venus en France pour combattre les Allemands. Et donc, il pensait que ça va être... il va être héros, romantique d'être en France et de combattre pour le pays de ses ancêtres. C'était comme ça. Mais comme tous les jeunes soldats qui va à la guerre, il a trouvé que en fait c'était pas si romantique.
Effectivement. Est-ce que, enfin, on remarque ça au fur et à mesure de roman, c'est qu'il y a une sorte de parallèle. Enfin, vous mélangez, enfin, alternativement, il y a deux mondes qui se confrontent. Il y a l'horreur de la guerre d'un côté et la beauté de l'art de l'autre. Et ces deux personnages vont se réunir avec leur histoire, avec leur passé. Enfin, est-ce que c'était vraiment une volonté, voilà, de faire confronter dans ce roman, voilà, l'horreur de la guerre et la beauté de l'art?
Moi, je trouve que pour les écrivains, souvent, c'est les libraires et les journalistes et les lecteurs qui interprètent et qui décrit le roman à l'auteur. Parce que moi, je suis raconteur dans mes romans. C'est ça mon but comme écrivain, c'est d'écrire un roman, de raconter une histoire intéressante et qui déroule. Et donc, je savais que ces deux personnages, il faut qu'ils se rencontrent. Et donc, Chrissy est tombée amoureuse de lui quand elle avait 12 ans. Après son père raconte toute cette histoire, parce que ça continue un peu. Puis, mais c'était en, quoi, 5, 6 ans après qu'ils sont... plus que ça. Parce que lui, il était blasé, il a passé des années en Écosse, Bogie. Mais non, je n'avais pas l'intention, mais en fait, c'est vrai que c'était vraiment entre la guerre et le mandat. Mais c'était comme ça aussi à l'époque. C'est pour ça que c'était si palpitant, les années 20, les années folles à Paris, parce que tout le monde était libéré de cette guerre incroyable, affreuse, horrible. Et ils ont eu envie de célébrer. Et c'est ça l'esprit de le roman, je trouve, un peu. C'est de l'esprit de Montparnasse, en fait.
Alors justement, est-ce que vous êtes... Enfin, vous, Vous êtes souvent allé à Paris. Est-ce que vous êtes allé à Montparnasse? Est-ce que vous avez essayé de tracer le chemin de Crisis dans le village de Montparnasse?
Ah oui, oui, bien sûr. En fait, c'est marrant parce que j'ai trouvé pendant mes recherches qu'elle avait quatre ateliers différents tout à Montparnasse pendant sa carrière. Et le premier, c'était 14 boulevard d'Edgar Quinet, juste en face de la cimetière. Et j'ai pendant ses recherches, et c'était là où elle a vécu avec ses parents, juste à côté, ses parents, elle a vécu dans un appartement à côté, et puis elle a eu un atelier là. Son père a pris un atelier pour elle. Elle était à l'école, elle était en train d'étudier avec Humbert. Et son père a loué cet atelier pour elle en face. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé l'adresse. J'ai mis Google, sur Google, j'ai trouvé l'adresse sur Click-Apart. Et c'était en fait, maintenant c'est l'atelier de Chris, c'est une maison de location. Donc pour le mois que je suis ici en France, pour la sortie, pour l'expo, j'ai ramené tous les tables, j'ai loué, j'ai eu ma maison d'édition à louer, l'atelier de Chris jusqu'à côté de l'appartement de ses parents. Et c'est là où j'ai ramené tous les tableaux de où ils ont été nés en fait. C'était même plus bizarre. Et donc c'était pour moi, c'était vraiment tout ce roman. Il s'est déroulé un peu par hasard, mais on a toutes ces coïncidences incroyables, toutes ces trucs qui tombaient sur place pendant l'écriture et après même. Et le premier jour que je suis allé pour voir l'appartement avec mon attaché de presse du Cherche Midi, on était dans le cours, c'était dans le rez-de-chaussée où l'atelier, et le monsieur, il sort de la maison où elle a vécu avec ses parents et avec son chien. Et on a commencé à parler un peu, et mon attaché de presse m'a introduit comme Jim Fergus, écrivain américain, lui qui a écrit « Mille femmes blanches ». Et le monsieur est tombé sur genoux, il a pris ma main, et il dit « Ah, tu as écrit « Mille femmes blanches », j'ai adoré ce roman, blablabla ». Et puis on a commencé de parler un peu plus. Il m'a dit, moi aussi je suis artiste, je suis photographe, je fais des films. Et j'ai dit, ah bon, quel film est-ce que vous avez fait? Il m'a dit, alors j'ai fait des films Emmanuel, l'histoire d'eau. C'était juste Jacquin, le metteur en scène, qui était mon voisin à côté, qui habite dans la maison de Crisis. Et moi, j'étais dans l'atelier, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire.
Une espèce de zone comme ça qui appelle un peu à l'érotisme là-bas. Ça,
ah oui, tout à fait. Mais j'ai trouvé aussi un autre voisin qui habite là, et il connaît toute l'histoire du bâtiment, qui autrefois, c'était avant Crisis, et sa famille sont venus, c'était où Soutine et Modigliani, il y avait une sculpture. Maintenant, il y a une sculpture, une tête dans le jardin là. C'était fait par un sculpteur qui n'était pas connu à Montparnasse, Rosso Rossi. Et il était très ami avec Soutine et Modigliani, et ils sont venus souvent comme squatteurs pour rester dans son atelier. Et donc c'était, mais à l'époque, tout ce bâtiment, c'était que les ateliers des artistes.
On a bien compris, on a jusqu'à demain soir pour courir à Paris pour aller voir l'exposition.
Oui, malheureusement, c'est la clôture, c'est demain soir. Mais c'est que 2 semaines. Il a commencé, on avait le vernissage le 15 mai jusqu'à le 1er juin. Donc, mais non, c'est dommage parce que je voulais bien que tout le monde peut voir toutes les photos et tous les tableaux, parce que c'est vraiment impressionnant, cette jeune femme.
Est-ce que vous comptez en refaire une exposition? Peut-être pas forcément à Paris, mais ailleurs ou...
Ah, oui, on verra, oui. Je pense que c'était moi qui l'a fait presque. C'était ma maison d'édition qui a loué. C'est dans l'atelier du musée de Montparnasse. On le loue et on l'a loué pour 2 semaines. Donc, mais c'était beaucoup, beaucoup de travail. Et je ne sais pas si j'ai envie de le faire encore. Je suis écrivain, je ne suis pas galeriste.
Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on ressent quand on est celui qui fait découvrir un artiste comme Crisis?
Je ne sais pas, c'est bizarre parce que ce roman, même que Marie Blanc s'occupait de ma famille, ma mère et ma grand-mère, et c'est très personnel. Ce roman aussi, c'était très personnel pour moi. J'étais vraiment attaché à ces deux personnages, même Bogie qui était enfanté, mais il était basé sur un vrai homme que j'ai connu dans le Colorado, qui était dans la guerre. Un rancher, un ami de moi, il est mort dans les années 80, mais c'était lui qui m'a raconté cette petite histoire de la guerre et c'était lui qui a inspiré le personnage de Bogie. Mais j'étais vraiment attaché à ces deux gens, Bogie tout à fait enfanté presque, et Crisis. Et je ne sais pas, pendant l'écriture de ce roman, j'étais vraiment émoué par ces gens. J'espère que les lecteurs trouvent pareil.
Ah ouais, je pensais, en lisant le roman, j'ai pensé que Bogart en fait, était plutôt inspiré de vous, puisqu'il a des racines françaises, vous aussi. Vous
avez oui, peut-être un peu. Je trouve que c'est impossible d'écrire un personnage, même Crisis, même une femme, on partage toujours un peu de l'écrivain, je trouve, de l'auteur, je trouve.
Vous avez un côté cow-boy, il y a votre cheval qui vous attend.
Oui, c'était comme ça que ce monsieur, j'étais à cheval avec lui dans les années 80, quand il m'a expliquait qu'il était venu à la guerre et à ce rancher. Il est tombé amoureux d'une jeune Française. Et enfin, il a resté à Paris quelques années, comme pas mal des soldats américains à l'époque. Mais enfin, il fallait qu'il quitte la France. Et il m'a dit que ce jour-là, quand il m'a raconté, on était en train de prendre les vaches des montagnes à la ranche en automne, comme on fait chaque année, le round-up, je ne sais pas le mot en français, je ne me souviens jamais. Mais bon, et lui, il a dit que même qu'il adore, il adore sa femme de 50 ans et ses enfants, ses petits-enfants, cette jeune Française était le grand amour de sa vie. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Et bon, c'était... je ne suis pas... cowboy, c'est sûr, mais oui, je suis confortable à cheval. Mon père m'a appris de tout ça quand j'étais petite.
Donc c'est ça, en fait, ce qui est appréciable dans vos romans, c'est que vous n'arrivez pas... Enfin, il y a toujours forcément des choses, des faits véridiques et même des faits très personnels. C'est ce qu'on remarque en tout cas dans tous vos écrits. Et surtout, enfin, vous faites énormément de portraits de femmes. Est-ce que vous essayez... Enfin, la femme est un mystère pour vous,
toujours, mais je sais, c'est un peu par hasard aussi, parce que pour Mille Femmes Blanches, par exemple, j'ai tombé sur ce fait historique que les Cheyennes, ils ont demandé le cadeau de Mille Femmes Blanches comme femme pour le guerrière. Et donc, il fallait pour le roman que ça être raconté par une femme. Et pareil avec La Fille Sauvage, c'est juste quelque chose, j'étais en train de faire des recherches sur les Apaches, j'ai tombé sur cette histoire de cette jeune fille qui était capturée par un homme américain, en fait, qui était en train de chasser les pumas avec ses chiens. Et elle était, en 1932, elle était la dernière Apache sauvage en Mexique. Et ça, c'était une vraie histoire. Et j'étais fasciné par ça. Mais en fait, La Fille Sauvage a aussi un personnage très fort, un homme qui raconte l'histoire. Et pareil pour Marie Blanche, c'était toujours une histoire de... J'avais toujours envie de l'explorer, de raconter, de comprendre cette histoire de la mort de ma mère et sa vie et la vie de ma grand-mère aussi, qui a eu un grand effet sur elle et sur tout le monde. Mais bon, donc c'était un peu par hasard, mais aussi c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis femmes, mais quand j'écris ce roman et j'ai une question, qu'est-ce qu'une femme va penser de ça, j'envoie un mail ou j'appelle une amie et je raconte ce que je cherche et c'est pratique, ça.
C'est sûr. Donc là, vous avez encore, vous faites encore un grand tour de France pour présenter votre livre. Qu'est-ce qu'est la suite? Vous avez déjà une idée de roman?
Oui, en fait, j'ai déjà eu un contrat avec ma maison d'édition, mon éditeur, pour un autre roman avant. Et c'était après Marie Blanche. J'ai écrit un prospect, je ne sais pas comment dire, mais j'ai signé un contrat pour ça. Et ça s'occupe encore des Indiens. Ça, c'est un autre truc, mais... Mais après, comme j'ai dit, après Marie Blanche, j'ai eu envie d'écrire quelque chose de court. Et l'autre va être un grand projet de recherche, d'écriture, de voyage. Donc, j'ai proposé à mon éditeur, j'ai tombé sur cette histoire de Chrissy. C'est pendant le déjeuner un jour, j'ai déjà signé le contrat. J'ai raconté 5 minutes parce que je n'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec ce roman ce temps. Mais il lui dit, très bien, Jim, fais ce que tu veux. Donc, on a fait comme ça pour le titre de l'autre, l'ami Chrissy. C'était comme ça. C'est ça que j'adore de la France.
C'est vrai, on n'y va pas par 4 chemins, nous, c'est... Eh bien, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre prochain roman ou ça reste encore...
Non, oui, j'ai pas envie de parler trop parce que, en fait, c'est basé encore sur un vrai personnage incroyable. Juste après, pendant et après la guerre de révolution aux États-Unis, et c'est le tribut des Creeks indiens qui dans le sud-est, à l'époque c'était le sud-ouest en fait, d'Amérique. Mais c'était un personnage vraiment incroyable. Très peu a été écrit de lui, de sa vie, mais c'est un homme cette fois. Mais il a eu 2 familles. Il était américain, mais sa famille a soutenu les Anglais pendant la guerre. Et donc il était dans la guerre. Il était dans l'armée d'Angleterre pendant la guerre, et puis il a vécu avec les Creeks pendant quelques années. Il s'est marié avec la fille d'une chef, et puis il est rentré, il est capturé, il était en prison, il était allé à... C'est un personnage vraiment extraordinaire. Ça c'est le dernier, mais ça va prendre un peu de temps.
On aura hâte de le découvrir, en tout cas, maintenant. Et on espère surtout que vous reviendrez nous voir quand il sera publié.
Ah oui, c'est sûr. Je veux dire aussi que vous êtes résident de Bordeaux, en vraiment de la chance d'avoir... c'est magnifique, cette librairie, je trouve. J'ai jamais vu une librairie exactement comme ça. Vous avez vraiment de la chance.
Merci, c'est très gentil. On espère que la prochaine fois, il y aura plus de soleil.
Merci beaucoup. Oui, c'est ça, mais c'est comme ça en France maintenant. Je ne sais pas vous. Beaucoup. Je suis là tout le mois. Je suis un seul jour de soleil à or.
Ça devrait s'arranger normalement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, comme vous savez, j'espère que tout le monde lira Crisis.
Et aussi, ceux qui achètent Crisis, vous aurez aussi le tableau dans le livre.
Voilà.
Et tous les personnes. C'est marrant parce que j'ai pas vendu Marie Blanche ou Chrissy à une maison d'édition aux États-Unis. Ils ont tous les deux refusé. Je pensais pour Marie Blanche parce qu'il n'y a pas des Indiens dans le roman, franchement. Et aux États-Unis, on veut toujours que les écrivains fassent ce qu'ils ont déjà fait, surtout si c'était un succès. Mais pour Chrissy, j'ai mis un Indien là, parce que c'était un personnage dans le tableau. Et en fait, il est Cheyenne, un peu particulier comme personnage, mais... J'ai pas réussi de le vendre quand même.
Il fallait l'agrandir en fait.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci.